Radio Kapi. Oh, Kapi.
D'abord les titres, construire un État basé sur une armée et une police forte, mais aussi l'administration et la justice, telles sont les voies de sortie que propose un expert en management des conflits armés pour mettre fin aux violences extrêmes et conséquences sur la vie humaine dans l'est de la RDC. Julien Paluku l'a dit dans une conférence débat organisée ce vendredi ici à Kinshasa. À suivre également dans ce journal, la RDC lance sur le marché international son premier lot du café Kouilou produit depuis la forêt de Mayombe dans le territoire de Luka, la province du Congo central. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, précise que ses premières exportations du café Petit Kouilou sont envoyées à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'invité de ce journal est Blanchard Takatela, député provincial élu de Boulungu dans les Kouilou. Il nous parle notamment du blocage dans l'organisation de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kouilou. Bonsoir à toutes et à tous. Violence extrême et conséquences sur la vie humaine dans l'est de la RDC, c'est le thème de la conférence débat organisée ce vendredi 24 mai ici à Kinshasa par le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV. Pour sortir de ces conflits armés, Julien Paluku, expert en management des conflits armés, l'un des orateurs propose la construction d'un État basé sur une armée et une police forte, mais aussi l'administration et la justice. Il appelle par ailleurs les gouvernements congolais à saisir les Nations Unies, pour que soient déclarés les génocides en RDC après des milliers de morts dans l'est du pays. Julien Paluku l'a dit à Paul Matendo.
Parmi les voies de sortie de crise, c'est la constitution d'un État. Et l'État a les instruments de sa puissance. C'est notamment son armée, c'est notamment sa police, c'est notamment sa justice et son administration, qui sont des piliers majeurs dans la constitution d'un État. Parce que tant que nous n'aurons pas construit les éléments fondamentaux de la puissance publique, eh bien, tous les charognards viendront de partout à travers le monde pour venir chercher ce qu'ils veulent dans notre pays. Et donc, je pense que ces assises ont été une occasion d'échanger avec d'autres chercheurs, d'autres experts, pour que nous arrivions à recommander aux instances habilitées, notamment le gouvernement et d'autres, à saisir les Nations Unies pour que soient déclarés les génocides congolais avec autant de millions de morts qui se chiffrent à des dizaines de millions, avec autant de femmes qui ont été violées, avec autant de cibles civiles qui ont été visées. Je crois qu'il y a lieu que même on construise trois types de mémorials, un mémorial au sud Kivu, un mémorial au nord Kivu, dans sa partie sud, pour tous les massacres qui ont été liés, et un mémorial à Beni pour tous les massacres.
Pendant ce temps, au nord Kivu, une accalmie est observée ce samedi sur différentes lignes de front dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, au nord Kivu. Selon des sources sur place, aucun tir n'a été entendu, ni bombes larguées sur les collines surplombant l'axe Minova, Bweremana, Chacha, qui ont été les théâtres des affrontements les jeudis entre l'armée congolaise, appuyée par ses partenaires locaux et les rebelles du M23 RDF. En revanche, certaines sources dans la zone de Minova disent que les site minier de Lumbishi, situé dans les groupements Bouzi, territoire de Calais au sud Kivu, serait passé entre les mains du M23 depuis hier vendredi. Cependant, il est difficile de confirmer l'information. Notez que Lumbishi est un site stratégique d'extraction de minerais, notamment de l'or, cassitérite, coltan, tourmaline et manganèse. Du côté du territoire de Rutshuru, l'on observe également une accalmie autour de la Rwindi ce samedi, selon des sources concordantes dans la région. Ces sources précisent que les rebelles occupent toujours la Rwindi. Et puis, en Ituri, plus d'1,6 million de déplacés qui ont fui les atrocités des groupes armés depuis 2017 vivent dans des conditions précaires dans différents sites. La coordination de la société civile qui tire la sonnette d'alarme déclare que cette situation est consécutive à la suspension de l'aide alimentaire par les humanitaires et la difficulté d'accès dans certaines entités à cause de l'insécurité. Les coordonnateurs de cette structure demandent au futur gouvernement d'assumer sa responsabilité en imposant la paix dans cette province. Cela en vue de permettre aux déplacés de regagner leur milieu d'origine. Les points de la situation avec Isaac Remoyope.
Ces déplacés sont disséminés dans 57 sites dans les différents territoires Djougou, Irumo, Mambasa et Mahagi. D'autres, dont le nombre n'est pas déterminé, sont installés dans des familles d'accueil ou sont réfugiés en Ouganda. Ces déplacés internes vivent dans des conditions difficiles, pas des vivres et des médicaments. Conséquence, les cas de décès sont récurrents dans ces sites, déclare son coordonnateur. Par exemple, au site de Nyamoussassi à la plaine du lac Albert, plus de 70 personnes sont déjà mortes depuis janvier suite à la malnutrition, à l'anémie et autres maladies. Ceux qui se rendent dans leurs champs pour chercher des vivres tombent souvent dans l'embuscade des hommes armés qui s'attaquent même au site, ajoute la même source, ce qui réduit sensiblement la résilience de ces sinistrés. La plupart des enfants de ces déplacés ne vont plus à l'école depuis 5 ans. La coordination de la société civile de l'Ituri lance un appel au chef de l'État et au futur gouvernement en vue de mettre fin au calvaire de ces déplacés qui aspirent à la paix. Dieudonné Lossa.
Il y a des déplacés qui vivent dans des conditions infrahumaines car ils sont souvent tués, violés, kidnappés soit au chat, sur la route. Les enfants des déplacés vagabondent dans les rues de la ville de Bounia, quémandant de l'argent à cause de la faim et suffisance d'aide humanitaire.
De nouveaux déplacés sont enregistrés presque chaque mois suite aux incursions surtout des rebelles ADF dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Même situation à Minova dans le sud Kivu. Cette cité du territoire de Calais et voisin à Massissi dans le nord Kivu enregistre aujourd'hui 60 000 personnes déplacées. C'est ce qu'indique l'administrateur du territoire de Calais en visite hier à Minova. Thomas Bakenga dit apprécier les efforts d'aide humanitaire fournis par quelques organisations sur place, mais les besoins restent encore énormes au regard du nombre élevé des déplacés venus des villages affectés par la guerre du M23 dans les Massissi. On écoute Thomas Bakenga, administrateur de Calais, joint par Jean Kassami.
Nous sommes venus évaluer la situation des 600 000 déplacés, évaluer les situations des inondations. Et sur le plan des déplacés, nous avons constaté qu'il y a plus de 600 000 déplacés qui sont cantonnés spontanément dans plus de 68 sites. Et se déplacer, ils sont en difficulté évidemment des assistances humanitaires. Nous avons enregistré quand même quelques humanitaires qui ont accepté de s'aligner. Et c'est le cas de Save the Children. Il y a CICR, il y a PAM qui venait aussi de nous aider avec l'accompagnement des AIDS. C'est-à-dire nous avons maintenant, là, pour le moment, une assistance de près de 52 000 ménages. Donc 52 000 ménages contre 600 000, c'est encore trop peu. Là, on ne parle pas des familles d'accueil, parce que tout le monde maintenant à Minova semble être dans des situations vraiment de vulnérabilité. Et donc, nous invitons les humanitaires de venir en urgence parce que ça ne va pas.
Congo Central, l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a lancé hier, depuis la forêt de Mayombe dans les territoires de Lukala, de premières exportations au café Petit Kwilu à destination de Dubaï, d'après la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Numbi, qui a procédé au lancement. Le café Petit Kwilu est de la famille Robusta à petits grains cultivés exclusivement en République démocratique du Congo et spécialement dans la forêt du Mayombe au Congo Central. Mimi Numbi appelle les Congolais à prendre soin de cette culture car ses importations ouvrent pour la RDC une porte sur les marchés internationaux des produits pérennes. Nana Pluriche Mambou nous en dit plus.
Selon la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, c'est à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que vont les premières importations du café Kwilu. Pour Mimi Numbi, ce café produit exclusivement dans la forêt de Mayombe en territoire de Lukula est une carte postale pour la RDC qui doit être protégée par les Congolais.
Que le Petit Kwilu, qui est de la famille Robusta, est un café qui s'est déjà dégusté dans plusieurs salons internationaux à plus de 70% vis-à-vis de ses pairs Robusta. C'est un café extraordinaire. Quand vous le mélangez avec l'Arabica et le Robusta, ce petit café rehausse les goûts. C'est une carte postale pour la République démocratique du Congo qui doit être protégée par les Congolais, car cette espèce ne se retrouve qu'en RDC, spécialement dans la forêt du Mayombe. Lukula.
Après Lukula, Mimi Numbi a présenté dans la ville de Boma les laboratoires innovés des produits agricoles pérennes de l'ONAPAC et a aussi lancé la brigade. Cette brigade anti-fraude sera déployée à Lukula et à Tchela en vue de lutter contre les mauvaises pratiques au cours de la campagne de production du café Petit Kwilu. Financé par l'Union européenne, les projets sur la promotion de la culture du café Kwilu s'étend au-delà des 1000 hectares et encadre plus de 50 villages à Lukula. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
À Kalemie, nous apprenons que les grands bâtiments qui abritent les centres de jeunes est abandonné. Depuis plusieurs mois, des inconnus fuient ces bâtiments. Ils emportent des portes, des fenêtres et arrachent des installations électriques. Ces centres symbolisent l'unité et la solidarité des jeunes de la ville de Kalemie. Paulin Munanga nous en parle dans ses reportages.
Situé au quartier Filtizaf dans la ville de Kalemie, le centre des jeunes du Tanganyika a été construit par la fondation Francine Muyumba et inauguré en septembre 2022. Cet imposant bâtiment est composé d'une grande salle polyvalente d'environ 400 places assises, de 4 bureaux, d'autres pièces et de plusieurs toilettes. Le bâtiment est entièrement carrelé. Plus d'une année après son inauguration, le centre des jeunes est à l'abandon. Il n'y a personne pour l'entretenir ou le sécuriser. Plusieurs portes et fenêtres volées, des installations électriques arrachées, des plafonds tombent et l'herbe pousse autour du bâtiment. Albert Sangwachenge, premier vice-président du conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika, est l'un des membres du comité qui gère ce centre. Il donne les raisons qui expliquent l'abandon du bâtiment qui abrite le centre des jeunes.
Nous avions tenté par nos petits moyens d'assainir ces milieux et voir à la mesure du possible comment on pouvait même sécuriser ce centre des jeunes, parce que nous devons le rappeler ici que depuis l'inauguration de ces centres, il n'y a jamais eu des agents de sécurité. Pourtant, nous avons quand même un ministre des jeunes qui est là, mais personne n'a jamais pensé à sécuriser cet endroit pour le bien de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on pense que la jeunesse a assez de moyens, la jeunesse peut se prendre en charge.
Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, clôture ce samedi à Mbujimayi du deuxième colloque international organisé par l'Université officielle de Mbujimayi. En ces derniers jours, l'hôte de cette activité, le professeur Kamba Ibwacha, a décortiqué le thème intitulé « Demain, un Congo plus beau qu'avant, les réalisations d'un rêve ». Il a donné quelques caractéristiques d'un bon leader pour un Congo de demain. Signalons que ce deuxième colloque a réuni plusieurs professeurs de la RDC et de l'étranger. Direction la province du Maïndombé. À la veille de la tenue des élections du gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs, scrutin prévu demain dimanche, les cadres des concertations provinciales de la société civile appellent les uns et les autres au calme et à la paix commune. Cela après avoir constaté plusieurs discours de haine et menaces verbales répandues par les partisans de tel ou tel autre candidat à travers la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombé. Le président du cadre des concertations provinciales de la société civile pense que ces menaces risquent de causer du désordre les jours du vote. Isidore Bolikala appelle au calme. Il est au micro de Irène Bomaluzolo.
Nous constatons qu'il y a des violences verbales, des camps qui se jettent des sorts et ces violences ne nous mettent pas à l'aise. Des injures, et puis les autres font vanter tout ce qu'ils ont, et pas les autres critiquent l'autre camp. Et nous constatons que si les deux cas s'affrontent, ça peut amener à des grands désordres dans la ville. Comme d'habitude, nous, la société civile, tout ce que nous leur demandons, c'est qu'il faut qu'ils cessent avec des menaces verbales. Nous comprenons bien que le rôle des candidats, que ce soit gouverneur ou sénateur, c'est de présenter leur projet de société auprès des grands électeurs afin que le projet de société soit soutenu et à ces mots-là, on va les élire. Mais tous ces camps qui sont en train de se jeter des sorts, ça n'aboutira à rien. Et nous craignons qu'il y ait des désordres qui peuvent surgir sur tous les grands jours, les jours des élections. C'est comme ça que nous interpellons à tous les partisans de garder calme et silence. Et sur tous les leaders politiques, c'est-à-dire les candidats gouverneurs, les candidats sénateurs, que chacun, à ce qui les concerne, ils conscientisent de sa base pour que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité, afin que les opérations passent avec quiétude.
Autre nouvelle, l'église kimbanguiste commémore ce 25 mai la naissance de son chef spirituel, Djalungana. Selon les rites kimbanguistes, cette fête marque aussi la naissance du Christ célébré par le chrétien le 25 décembre de chaque année. Ici à Kinshasa, toutes les communautés venues de tous les coins de la ville ont afflué au centre kimbanguiste situé dans la commune de Kasavubu. Paul Matendo s'y est rendu pour Radio Okapi.
Ambiance de fête, rameaux et drapelés entre les mains, les fidèles kimbanguistes chantent et dansent à la gloire de Djalungana, l'un des fils Simon Kimbangu. Nous sommes dans la joie, dit cette femme, parce que ce jour marque la deuxième naissance de Jésus-Christ. Pour un autre fidèle, Djalungana est le Christ des kimbanguistes.
C'est une journée de fête à l'honneur de Papa Yalungana.
Et on dit aussi que c'est la naissance du Christ.
Oui, il est le Christ pour les Kimbanguistes, donc nous le considérons comme étant notre Christ.
La célébration de cette journée a provoqué des bouchons dans ses périmètres, rendant ainsi difficile la circulation routière.
Actualité internationale.
Les assises nationales devant décider de la suite de la transition débutent ce samedi au Burkina Faso. Les représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays sont appelés à faire les bilans de la transition depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Elles décideront de la suite du processus qui prend fin le 1er juillet prochain. Une rencontre qui se tient dans un contexte d'étension. Les plus importantes coalitions des partis politiques pose des conditions avant de prendre part à ces travaux.
L'invité.
Nous recevons Blanchard Takatela, député provincial élu du territoire de Bulungu dans la province du Kwilu. Il nous parle de la situation politique dans cette province, principalement du blocage dans l'organisation de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Blanchard Takatela s'entretient avec Paul Matendo.
Blanchard Takatela, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous parlez de la situation politique de la province du Kwilu et vous dites que cette province est bloquée. Comment vous expliquez cela?
La province du Kwilu est vraiment bloquée, puisque vous savez que toutes les provinces ont au moins deux institutions politiques et officielles. C'est l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial aussi. Et quand ces deux institutions-là sont opérationnelles, la province vit aussi. Mais quant à nous, au Kwilu, notre province du Kwilu est bloquée par le fait que l'Assemblée provinciale est paralysée, puisque jusqu'à présent, nous demeurons dans le système, disons, provisoire. Nous avons jusque-là un bureau provisoire du fait de l'annulation des élections à Massimanimba. La CENI s'est arrangée pour interdire au bureau provisoire de ne pas organiser l'élection du bureau définitif. Elle a écrit au président de l'Assemblée provinciale, au président du bureau d'âge, le professeur émérite honorable Ntsaman. La CENI lui a écrit en réservant copie à la présidente de la République, réservant copie à toutes les grandes institutions de la province, plutôt de la République, pour que les bureaux provisoires ne puissent pas organiser l'élection du bureau définitif. Or, le fait de ne pas organiser l'élection du bureau définitif, cela veut dire qu'elle nous empêche, nous, d'organiser l'élection des sénateurs et des gouverneurs des provinces qui ont eu lieu le 29 avril passé.
Vous dites que c'est la CENI qui a interdit l'organisation des élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Selon vous, comment la CENI explique cette situation?
La CENI a avancé l'argument tel que, comme il n'y a pas Massimanimba, il n'y a pas les élus de Massimanimba, l'Assemblée provinciale du Kwilu ne peut pas organiser l'élection soit de son bureau et continuer avec l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Du fait que la CENI nous a empêchés, nous a interdits, nous demandons aussi à la CENI, par un parallélisme qui est logique, considérant que Massimanimba est un territoire de la province du Kwilu, nous prenons aussi la province du Kwilu comme une province active au niveau du Sénat. Dès lors que Massimanimba n'a pas encore ses élus provinciaux, le Kwilu aussi n'a pas ses sénateurs. Nous allons demander aussi à la CENI, de la même façon qu'elle a écrit au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwilu, d'écrire aussi au bureau provisoire du Sénat de ne pas organiser les élections du bureau l'élection plutôt du bureau définitif du Sénat, du fait que la province du Kwilu étant absente. Puis c'est les dignes fils du Kwilu qui seront élus comme sénateurs pouvant aussi briguer un poste à ce bureau-là de Sénat.
Au niveau du collectif des députés provinciaux, quelle est l'alternative que vous proposez à la CENI pour débloquer cette situation?
Les démarches menées par les députés provinciaux auprès d'elle, on lui avait demandé, en attendant l'élection de Massimanimba, laquelle élection d'ailleurs, nous ne savons pas si elle aura vraiment lieu, puisque la CENI est en train de réclamer de l'argent à tout moment, qu'elle n'a pas l'argent. Et nous nous disons, si la CENI n'est pas prête, même si elle est prête, est-ce qu'il n'y a pas moyen que la CENI fasse retourner d'abord les élus provinciaux de la législature passée de Massimo Nimba qu'ils viennent siéger avec nous afin de nous permettre d'organiser l'élection des bureaux définitifs et aussi d'organiser l'élection des sénateurs et des gouverneurs pour la province du Kwilu. Et après, quand il y aura élection à Massimo Nimba, les collègues de Massimo Nimba qui sont aussi candidats pourront rentrer chez eux pour battre campagne, se faire élire. Ceux qui seront élus vont revenir à l'Assemblée provinciale et ceux qui ne seront pas élus se verront remplacés par les nouveaux élus. Voici, c'est tout ce que nous demandons pour ne pas laisser la province du Kwilu dans cette situation, puisque nous ne sommes pas trop sûrs avec les calendriers de la CENI, lesquels calendriers ont été modifiés plusieurs fois, et aussi la CENI qui réclame l'argent à tout moment.
Blanchard Takatela, merci.
Merci beaucoup.
Blanchard Takatela, député provincial, élu du territoire de Bulungu dans la province du Kwilu, s'entretenait avec Paul Matendo. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'actualité vespérale sur Radio Kapi, mise en onde par Alain Goy et Deps Vita, supervisée et coordonnée par Jude Bilan Dankoumar et Jean-Désiré Kanyama. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci de votre sympathique attention.